I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ce sera le week-end prochain, le 25 et 26 février 2023, ça s'appelle Furax, et c'est un week-end de stream pour venir en aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, et de harcèlement en ligne. Je lis la description présente sur le site officiel et je continue la lecture, parce que pourquoi pas. À l'initiative de Nathalie et Turbo Joule, Furax c'est l'envie de faire bouger les choses à notre niveau, par le streaming et les communautés en ligne. Furax, c'est une célébration des combats et la manifestation d'une détermination sans faille pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement en ligne. C'est un espace pour soutenir, éduquer, soigner et célébrer. Ça se passe donc dans quelques jours sur Twitch à l'heure où cet épisode est mis en ligne et j'ai donc le plaisir pour cet entretien si l'on s'en joue de recevoir les deux streameuses à l'initiative de cet événement, Nathalie et Joule. Je suis vraiment ravi de les recevoir, bon pour parler de Furax bien sûr et on espère que le succès sera au rendez-vous pour cette première édition mais aussi en absolu. Car Nathalie et Joule sont les représentantes de la partie très engagée de la scène du streaming jeux vidéo en France. Elles sont peut-être moins visibles que les stars du milieu qui se concentrent sur du divertissement pur, mais elles proposent, à leur niveau, quelque chose peut-être plus en phase avec le réel. Bref, il est temps de retrouver mes invités. Silence en joue, Erwan Cario, bonjour. Et nous avons le plaisir, aujourd'hui, dans Silence on joue, d'accueillir normalement deux, mais pour l'instant une, on ne sait jamais, elle, l'autre va peut-être arriver en cours d'émission. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Salut Nathalie.
Salut. Effectivement, je vais prendre la place de deux personnes, mais voilà. Pour l'instant, il faudra se contenter de moi. Voilà.
Je peux me permettre de lire une phrase de ta bio Twitch. Je suis
bien
obligé.
Bien sûr, bien sûr.
Sa subtilité et sa délicatesse en font une humaine tout à fait douce qui ne se mettra jamais en colère et saura toujours faire preuve de clémence et de bonté.
Ouais, c'est clairement un très bon résumé pour toutes les personnes qui me connaissent. Je pense que sans la moindre exception, ils seront tous en mode ouais, Nathalie, c'est la personne la plus chill que j'ai jamais rencontré de ma vie. Elle a jamais fait un mot plus long que l'autre. Elle a jamais dit quoi que ce soit d'un peu touchy, tu vois. Genre vraiment, c'est ma bonne description, je pense.
tout va bien. Oui, déjà, oui, c'est sans doute. Mais donc, tu es streameuse Twitch jeux vidéo. Je lis là une autre bio, c'est celle de Twitter. Donc revue de presse militante et féministe aussi. Tu es par ailleurs casteuse et sorcière de la coloration arc-en-ciel, ça je te laisse la responsabilité de ces propos. Mais juste pour préciser que normalement ça aurait dû être ta deuxième intervention dans Silence on joue parce que nous avons fait, c'était juste avant la 500e, c'était au Forum des images l'année dernière, il y a un an tout pile là. À l'heure où on se parle, nous avions fait un événement en compagnie de Mister MV. J'avais fait une interview sur Twitch à propos de Twitch sur Twitch en jouant notamment à Mario Kart. L'interview était très douloureuse pour moi parce que j'étais pas prêt à l'époque à faire les deux en même temps. Mais donc ça devait finir en épisode de Silence on joue, mais il y avait une histoire de son trop mauvais. J'avais pas pu utiliser le truc. Mais voilà. Donc je te reposerai. Sans doute des questions que je t'ai déjà posées à cette occasion-là. Excuse-moi.
Eh ben écoute, il y a aucun souci.
On est là pour parler de Furax. Furax, c'est un événement que vous avez annoncé début janvier. On a évoqué, c'est Julie Le Baron qui est chroniqueuse à Silence en Joue, donc qui l'a évoqué dans Silence en Joue. Moi, j'ai tout de suite par réflexe, je me suis dit, bah, il faut qu'on en fasse une spéciale dans Silence on joue. Donc, vous l'avez annoncé début janvier. Question qui est ultra générale et très bateau, mais comment avec... Jules, qui devait être là, qui sera peut-être là plus tard. Mais comment est-ce que vous avez eu l'idée, de l'envie de monter un tel événement?
Bah écoute, c'est Jules qui... La légende raconte que Jules est venu chez moi un jour et m'a dit « Putain, Nathalie, viens, on fait un événement caritatif !» Et j'ai dit « Ah ouais, franchement, solide !» Et voilà, on est parti comme ça. Et bon, après, bien sûr, il y a tout un contexte derrière. Le contexte par rapport à Jules, c'est que bah, elle-même, elle a déjà subi un cas de harcèlement et de stalker qui est extrêmement violent. Ouais. Moi, je peux que vous le résumer, hein, je la laisserai en parler si elle arrive plus tard, mais en gros... voilà, ça a duré un an, elle a eu un stalker, la police faisait absolument rien. C'est vraiment ses amis qui ont dû trouver l'adresse du stalker, réussir à la protéger elle aussi. La police ne faisait rien. Ça a duré un an avant que le mec soit enfin arrêté. Et encore, même là, le résultat était très mitigé. Donc elle-même ayant été victime d'une violence aussi énorme et avec l'actualité, tu sais, c'est arrivé un peu après que Magla ait fait son thread, ouais, qui a libéré énormément la parole des femmes, enfin des streameuses en fait par rapport à Twitch, bah du coup vraiment c'était le moment quoi, c'était en mode bon viens on fait un événement caritatif et mais un événement caritatif féministe vraiment dédié aux femmes et aux violences sexistes et au cyberharcèlement parce que les deux sont extrêmement lié. Hein, je veux dire, une femme sur Internet finit forcément par connaître les joies du cyberharcèlement, soit parce qu'elle en est témoin, soit parce qu'elle en est victime. Donc c'est vraiment, vraiment pas normal. Et donc ça, c'était du côté de Jules, vite fait. Moi, de mon côté à moi, c'est simple. J'avais pour ambition de réaliser une association d'aide pour les victimes d'influenceurs. Alors je sais, c'est très spécifique, mais en gros, oui, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes du coup de gros streamers, de gros instagrammeurs, de gros youtubeurs, et qui derrière se retrouvent complètement isolées, en mode « bah qu'est-ce que je peux faire ? Il a toute une communauté derrière lui, moi je suis personne, etc. » Et ça les met dans un désespoir assez monumental, et en fait, bien souvent, leur seule et unique aide, c'est la justice, sauf que la justice, on le sait, c'est loin d'être la meilleure amie des femmes, elle est souvent faillible. Surtout en termes de violences sexistes. Et du coup, voilà, j'avais pour ambition de réaliser, et c'est toujours dans les cartons, de réaliser une association qui viendrait en aide à ces victimes-là et à ce problème spécifique. Alors, bien sûr, ça s'élargirait un peu. Mais du coup, voilà, moi, j'avais cette ambition, du coup, de faire une asso là-dessus, vraiment spécialisée là-dessus. Et donc, il y a eu le thread par rapport à Magla et tout. Et il y a eu aussi le Z-Event qui, comme chaque année, a sa petite polémique en fonction des personnes qui sont invitées et tout. Sauf qu'en 2021, ça a un peu été la polémique de trop. Parce que parmi les invités du Z-Event, y en avait qui étaient absolument pas encadrés et avec des communautés absolument pas encadrées non plus. Et, ouais, et du coup, ça a fait qu'une des streameuses, Ultia, avait dû prendre la parole pour dire « Oula, c'est pas normal, ça, c'est un comportement sexiste, il devrait pas faire ça, il n'y a rien de chouette. » Et en fait, juste en disant ça, eh ben, elle s'est pris une vague de cyberharcèlement monumentale, c'est-à-dire que toutes les communautés des personnes absolument pas déconstruites, absolument pas féministes, et des communautés de mecs, hein, soyons honnêtes, et des très très grosses communautés qui étaient aux aides et ventes, se sont retournées contre elle du coup, et pendant un an non-stop, même encore aujourd'hui ça continue, elle se prend un cyberharcèlement monumental. Et j'ai dit 2021, mais je suis en train de me demander si c'est pas 2022.
Non, c'est bien 2021. On a reçu Ultia dans Silence on joue il y a quelques mois, elle nous avait évoqué ça, et en plus, on l'a reçue et elle nous disait par ses mots que depuis, en fait, elle se prenait des vagues à chaque fois qu'il y avait n'importe quoi qui se passait. Et en fait, on a posté l'épisode et quelques jours plus tard, il y a eu le Eleven All Star organisé par Amine Mathieu sur Twitch. Il y a eu une question qui s'est posée sur c'est pas des équipes mixtes, enfin c'est un choix, etc. Enfin voilà, on aurait pu faire autrement. Elle n'a pas du tout participé à la discussion et elle était en top trending topic sur Twitter direct. Ouais. Et c'était juste pour contextualiser ce que tu viens de dire, mais effectivement ça fait très longtemps que ça dure. Et elle a annoncé notamment via Mediapart il y a quelques semaines qu'elle portait plainte, ce qui est très courageux et très bien.
Ouais, bien sûr.
Pareil.
Bah, tu vois, justement, tu vois, il y a eu donc cette polémique, et pour moi, c'est vraiment gravissime parce que, à mes yeux, c'est vraiment le Z Event qui l'a mise en danger. Par l'absence de charte, par l'absence de modération, par l'absence de restreinte, et à force d'inviter absolument tout et n'importe qui, bah, ils se sont retrouvés à brasser même les communautés les plus toxiques et les plus misogynes et les plus affreuses pour les meufs. Et pour moi, c'est à cause d'eux que, c'est à cause du Z Event que Ultia paye encore aujourd'hui les pots cassés. Et en fait, c'est vraiment un cumul de tous ces événements caritatifs qui veulent pas faire de la politique mais qui font du caritatif, ce qui n'a aucun sens. Encore après, on a eu une interview de Zerator où il disait il y a tel invité du Z-Event qui a eu un thread polémique, mais moi tout ce que je regarde c'est le nombre de viewers qu'il fait, c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc ouais, on a vraiment cette volonté de la seule chose qui compte c'est l'argent. Et en fait, bah, il y avait vraiment besoin de faire autre chose. On voulait vraiment partir sur un événement plus un événement caritatif avec une vraie responsabilité politique, avec une charte, avec une ligne droite et avec une volonté vraiment de dire bah, nous, on est engagés politiquement et on l'assume à 100% et on a un objectif de parmi ce qu'on veut faire. On veut faire plus que juste du caritatif. Et du coup, bonjour Joule.
Bonjour, je suis vraiment désolée, j'avais noté 17h et du coup, je suis vraiment
C'est pas grave. On s'est dit que tu allais arriver en cours de route, donc on a le plaisir d'accueillir aussi Joule, donc la co-organisatrice, enfin la personne qui est à l'initiative donc avec Nathalie de Furax. Bonjour Joule.
Bonjour.
Bah écoute, toi, j'ai fait un peu la même chose que je viens de faire avec Nathalie, c'est que je suis allé sur vos bios respectives, que ce soit Twitter et Twitch. Et donc sur ta bio Twitch, tu préviens que ici vous êtes chez les bobos gauchistes bien pensants. Nous avons donc l'audace de ne pas tolérer les propos discriminants. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi ou le reste du chat, mais soyez civilisés, c'est assumé. Par ailleurs, tu te définis aussi sur Twitter comme spécialisé dans le râlage politique et les jeux indés. Ça va bien ensemble.
Ben voilà, je vois pas quoi rajouter de plus. Tu m'as bien décrite comme je l'ai fait moi, en fait.
Juste, bah, j'ai envie de te poser aussi la question que je viens de poser à Nathalie. L'origine un peu, l'origine story de Furax. Pourquoi avoir monté, enfin le pourquoi général, on se doute et ça va être l'objet de cet entretien, mais pourquoi avoir décidé de monter cet événement caritatif maintenant ? Qu'est-ce qui a un peu précédé à cette décision ?
Je pense que Nat a expliqué du coup le côté un peu plus gros avec tout ce qui se passait dans l'actualité à ce moment-là, et moi j'avais aussi un côté plus personnel parce que je venais de subir un énorme harcèlement de plus d'un an avec une personne qui avait retrouvé mon adresse, qui m'envoyait des menaces de mort, qui venait sonner chez moi régulièrement, et la police a mis un an à s'occuper de l'affaire.
Ouais.
Donc j'en avais un peu marre. Et je me disais que j'avais envie de participer à quelque chose qui pourrait accompagner justement les victimes juridiquement, surtout. Parce que moi, je me suis sentie un peu perdue, et si j'avais pas eu... quelqu'un qui pouvait m'aider financièrement pour payer un avocat, je ne sais pas comment j'aurais fait, quoi.
Ouais. Je précise que tu as raconté cet épisode, enfin cet épisode qui n'est pas un épisode, ce harcèlement qui a duré très longtemps, tu l'as raconté sur Twitter et c'est en tweet épinglé. Donc voilà, pour les gens qui veulent retrouver l'histoire. Donc Furax, c'est un événement caritatif qui va se dérouler sur Twitch, donc qui va se dérouler en stream. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça va se passer ? Parce que peut-être que des gens ont vu passer dans l'actualité, Nathalie a parlé tout à l'heure du Z-Event pour autre chose, mais on a vu passer comme ça les très grands événements caritatifs. Mais comment ça fonctionne et c'est quoi un peu les objectifs affichés de Furax?
Alors déjà, on a, je sais pas si vous avez déjà parlé de des assos, mais on a notre objectif principal, ça va être de lever des fonds, de faire une récolte de fonds du coup pour deux associations, donc qui est Nous Toutes, qui est bon pour l'instant un collectif qui fait beaucoup d'éducation sur le féminisme, les violences excitées sexuelles et tout ce qui tient à ça. Et à côté de ça, il y a aussi Elles Imaginent, qui est une association qui, elle, comme du coup je disais, elle s'occupe d'accompagner psychologiquement et juridiquement les femmes victimes de violences excitées sexuelles. Et à côté de ça, on a toute une envie d'éducation aussi. Donc ouais. On va faire de la sensibilisation, on va faire des tables rondes, tout ça. On a plus envie d'éduquer que de culpabiliser.
Et juste parce que il y a tout, enfin vous. Que ce soit toi, Jules, ou toi, Nathalie, c'est vrai que quand on suit vos streams, vous prévenez très, très vite et on comprend très, très vite ce qui se passe. C'est que vous faites beaucoup de pédagogie, vous faites beaucoup de discussions, vous faites du débat politique, du commentaire d'articles de presse et ce genre de choses. Mais donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du discours. Il y a aussi cette envie de... qui est important, hein, je nie absolument pas ça, mais il y a aussi cette envie d'arriver sur quelque chose de concret. On sait que il y a toujours ce nerf de la guerre qui est l'argent pour faire avancer les choses. Et c'est venu, je pense aussi, enfin c'est une question, est-ce que c'est venu après, voilà, aussi après des années à porter des discours, c'est la volonté de toucher à quelque chose de réel, quoi, qui a un impact dans le monde réel. Nathalie.
Alors la question était longue, je m'excuse si je réponds à côté. Non, c'est pas un reproche, c'est juste j'ai essayé de la suivre, mais déjà
c'est un gros défaut. Hein.
Mais en fait, déjà, je trouve que, enfin, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une évolution, parce que à mes yeux, tous les discours qu'on a ont un impact dans le monde réel. Oui. On m'envoie des messages pour me le dire très souvent. Le nombre de fois où j'ai reçu des MP pour me dire waouh, merci pour ce que t'as dit, c'est incroyable. Du coup, je pense que c'était surtout comme je te disais, il y a aussi cet aspect que il y a pas mal d'événements caritatifs qui sont lancés effectivement par de très gros streamers et qui font énormément de chiffres et qui brassent énormément d'argent. Mmh. Mais derrière, ils ont l'air d'être complètement déconnectés de l'aspect on n'a aucun aspect politique. Alors que, littéralement, si les œuvres de caritatifs existent, c'est parce qu'il y a des lacunes dans la politique. Donc c'est le sujet le plus politique du monde, le caritatif. Oui. Donc ça n'a aucun sens de séparer les deux. Et en fait, nous, il y avait un aspect, les violences faites aux femmes et les violences sexistes, tout le monde est au courant que ça existe. Tout le monde, sans la moindre exception, vous dira que oui, c'est vrai, sur YouTube et sur Twitch, les femmes, elles en subissent quand même beaucoup. Mais il n'y avait pas spécialement beaucoup d'événements. Enfin, il y en a, hein, heureusement. Il y avait Bird of Prey aussi, dont on nous avait parlé. Et il y en a d'autres qui commencent très doucement à arriver. Mais tu vois, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Et du coup, l'idée, c'était aussi d'en rajouter un. Et comme tu l'as dit, il y a aussi cet aspect très éducatif qu'on veut, parce que ça a toujours fait partie de nos chaînes et de ce qu'on sait faire. Mais du coup, effectivement, ça va pas juste être lever des fonds en étant très fun. Nous, dans le programme, pour l'instant, tu vois, on a un premier jet de programme qu'on voudrait faire. On a prévu des formations en ligne, on a prévu des témoignages, des interviews, des tables rondes. Tu vois, on va vraiment avoir un côté ultra pédagogique et super... super éducatif, quoi, par rapport à ces sujets.
Justement, tu parlais, Nathalie, tu parlais du programme de Furax. On va dévoiler ce qui est dévoilable. Juste avant ça, je suis encore désolé pour mes questions trop longues.
T'inquiète.
Mais comment est-ce qu'on passe... comment ça s'est passé pour vous? Parce que, d'après ce que racontait Nathalie avant que tu arrives, Jules, cette idée vient d'une soirée que vous avez passée ensemble avec cette idée que tu avais de monter comme ça un événement caritatif. Comment est-ce qu'on passe... J'ai envie d'avoir un peu de... Parce que je pense que ça ne doit pas être simple non plus. Comment est-ce qu'on passe d'une idée comme ça à quelque chose qui arrive concrètement le week-end prochain sur Twitch?
On a eu de la chance, hein. Franchement, on a eu de la chance.
Et en plus, ça s'est fait vraiment très vite. Ouais. Parce que c'était cet été, en fait, qu'on a décidé qu'on voulait faire ça. Donc, on n'a vraiment eu que quelques mois. Et c'est aussi et surtout grâce à Ponf, qui gère la société Altab, donc qui est une société de production, qui est un ami à nous. Et en fait, on lui en a juste parlé. Et c'est lui qui est parti vraiment en mode « Ok, on le fait ». Et du coup, forcément, avec une boîte de prod derrière, c'est vachement plus facile que si on avait été que toutes les deux.
Ouais, parce que là, directement, on a eu les locaux, Ponf ayant beaucoup de contacts, on a directement eu chargé de direction, on a eu toute la régie qui était assurée, on avait les contacts pour contacter à droite à gauche les gens pour avoir le matos, pour avoir les salles, etc. Donc ça a donné un coup de boost énorme au projet. Je crois qu'on a vraiment commencé à bosser dessus en octobre, novembre, décembre. Et ouais, là, on commence à dangereusement approcher de la date, et ça s'est fait, mais à une vitesse monumentale. Et c'est vraiment juste, on a eu de la chance, on avait les bons contacts. C'est absolument pas aussi simple que ça pour le commun des mortels, entre guillemets, si je puis me permettre. Nous, c'est vraiment, on a eu les bons contacts au bon moment et on a eu les gens motivés pour le faire, quoi.
Comment, du coup, pour les gens qui se posent la question, j'ai parlé évidemment des événements caritatifs, il y a une sorte de... Bon, on a parlé du Z-Event, mais il y en a, comme tu l'as dit, Nathalie, il y en a plein d'autres. Il y en a, enfin voilà, c'est comment ça va se passer, ça va être quoi le programme? Qu'est-ce que, quand on va se brancher sur Twitch samedi et dimanche, quand on va est-ce que déjà il va y avoir une chaîne générale Furax? Est-ce que ça va être sur vos chaînes respectives? Comment est-ce qu'on va profiter et participer à Furax ce week-end?
C'est tout ça à la fois. Il y aura une chaîne générale Furax sur laquelle on fera vraiment les présentations plus concrètes de l'événement, des associations, où on aura des tables rondes avec des invités. Et après, chaque streamer qui participe, je sais pas combien on est exactement, parce qu'on a aussi des gens qui vont participer depuis chez elle et chez eux.
Ouais.
Mais chaque personne qui va participer va faire un stream depuis son compte à elle, où elle fera le contenu qui lui plaît. On n'a pas vraiment de ligne directive... À part, bien sûr, rester safe.
Oui, une grosse ligne pour certains infranchissable.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun fera ce qu'il veut et qu'il pourra inviter des gens aussi, y compris des gens qui seront là, des personnes de nous toutes ou de Elles Imagine ou des invités qu'on aura pour la chaîne. Ils pourront aussi être invités chez les autres streamers.
D'accord. Et vous avez quoi? Vous avez des choses pour rythmer un peu ces deux journées? On lit sur le site, je crois qu'il va y avoir... des sortes de formations en ligne de la part de nous toutes, c'est un peu leur spécialité. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Ou même, vous pouvez déjà, si vous avez des choses à rajouter sur cet aspect formation en ligne?
Bah, en fait, là, on en est encore au moment où on est un peu dans le brouillon du planning, donc je peux pas t'affirmer des trucs haut et fort. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on a prévu... déjà, tu vois, tous les streamers qui vont participer, on a une quinzaine de streamers, ils sont complètement libres. Donc, ils vont peut-être faire du jeu vidéo, ils vont peut-être faire du just chatting. Ça, tu vois, c'est complètement eux qui décident, il n'y a aucun souci. Mais nous, en fait, donc sur la chaîne principale, on a prévu vraiment de faire un gigataf de contenu assez différent, mais toujours avec le même point, tu vois, par rapport aux violences sexistes. On a des associations qui vont venir se présenter. On a par exemple Game Impact qui sont d'accord pour bosser avec nous. Donc là, pareil, on va laisser Game Impact se présenter, présenter ce qu'ils font. Ils ont aussi fait le carnet de l'inclusivité qui tourne dans les boîtes de jeux vidéo, tu vois, qui viendront nous présenter. On aura aussi Afrogameuse qui sera avec nous. Pareil, Afrogameuse, elles, pour le coup, elles seront sur deux fronts. C'est-à-dire qu'elles auront toutes leur chaîne et tout pour streamer, mais on veut aussi leur donner un créneau pour qu'elles puissent présenter leur association à tout le monde. On aura aussi, donc, comme tu l'as dit, Nous Toutes, qui va littéralement faire une formation en ligne, en fait. Normalement, les formations de Nous Toutes, elles les donnent, tu vois, pour les professionnels et tout. Là, vraiment, il va y avoir une formation qui sera donc gratuitement accessible sur Twitch en direct, en rapport, du coup, avec les violences sexistes. On va même avoir, alors c'est pas sûr, mais potentiellement des juristes et ou des psychologues et des avocates, donc tout un peu spécialisé pareil dans ce qui est violence conjugale procès pour violence conjugale. Du coup, pareil, tu vois, il y aura un aspect répondre aux clichés par rapport à la justice, la situation, etc. Actuellement par rapport à des violences sexistes. On va aussi avoir un témoignage. Alors, c'est pas sûr à 100%, mais potentiellement des témoignages donc de victimes de violences en rapport avec le sexisme et malheureusement en rapport avec Twitch, qui viendront du coup nous raconter tout ce qu'elles voudront par rapport à ce qui leur est arrivé et surtout comment se passe le procès, comment ça a été pour elles, etc. On aura aussi des tables rondes sur certains sujets. On aura même d'ailleurs Radio Parleur qui sont des journalistes qui ont l'air ultra motivés pour faire un podcast en direct, donc faire un aspect un peu plus radio libre sur le sujet du sexisme et des violences sexistes et sexuelles. Donc là, tu vois, genre on touche vraiment ultra largement, on va faire plein de choses qui vont tout un peu s'alterner, parce que le but, c'est pas que ce soit trop lourd non plus, tu vois.
Oui, donc, c'est ça, en fait. Voilà. Le fait qu'on ait les streamers à côté qui font ce qu'ils veulent, on n'a pas pris que des gens qui sont forcément militantes ou militants pour ce qui est des violences sexistes et sexuelles, ou même militants et militantes féministes, parce que on voulait pas que ce soit trop lourd pour les gens. On va faire évidemment plein d'éducation autour de ça sur la chaîne principale, mais après, enfin, si on vient d'entendre plein de témoignages super lourds, on a peut-être envie de passer à autre chose et de, d'aller regarder des gens qui font du karaoké ou qui jouent à Mario Kart, quoi. Donc,
c'est ça.
On
accepte. Ah oui, et on aura un jacuzzi aussi pendant les ventes. Très, très important, ça.
Attends, mais c'est pas sûr encore d'être.
Non, mais si, c'est sûr. Soit on aura un jacuzzi, soit une piscine à boules. Mais moi, je vote sur les deux.
D'accord. Question quand même, parce que c'est dans, je parlais des traditions des événements caritatifs sur Twitch. Est-ce que vous avez pour vous et pour l'événement en général ce qu'on appelle des donation goals?
Bah en fait on va laisser les streamers qui seront avec nous faire chacun leur donation goal sur leur chaîne, tu vois, c'est comme ça que ça se fait en général.
Ouais.
On n'a pas prévu de donation goal pour l'instant sur la chaîne principale. C'est vrai qu'on pourrait, mais ça serait très difficile à mettre en place parce que on a déjà un planning fixé, tu vois. Mais clairement on peut prévoir diverses choses. Moi par exemple j'ai un magnifique chien qui a un magnifique costume de hot dog. Ce costume de hot dog peut être enfilé à partir d'un certain montant, bien sûr. On peut trouver des idées, ça c'est sûr.
D'accord, mais vous vous en aurez parce que, est-ce que vous coup en tant qu'organisatrice vous allez aussi streamer sur vos chaînes pendant, pendant l'événement, ou vous allez vous charger de l'animation générale?
On fera les deux, on se chargera de l'animation et on fera un peu de stream. Du coup on streamera beaucoup moins longtemps que les autres streamers et streameuses parce que bah, on aura d'autres trucs à s'occuper à côté, mais on compte streamer, oui.
Ouais, exactement.
On va revenir sur Furax, évidemment, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Moi j'avais un peu envie, parce que bah, vous êtes là, ça me fait ultra plaisir que vous soyez dans Silence on Joue, parce que quand ça me fait rire, parce que quand on a annoncé Furax, c'est vrai que on a annoncé vos noms, et puis c'est, il y a quelque chose dans vos profils et tout ça qui est logique que vous soyez à l'origine d'un tel événement. Je pense que personne n'a été forcément surpris. C'est pas non plus qu'on dit Furax organisé par Nathalie et Jules, c'est il y a quelque chose de naturel. Je voulais juste, est-ce que vous pouvez me raconter comment est-ce que vous êtes devenue streameuse? Est-ce qu'il y avait une raison particulière sur votre parcours personnel pour vous emparer comme ça de cet outil et pour en faire ce que vous en avez fait?
Alors moi je suis youtubeuse depuis l'année 2007. Donc,
oui, quand même.
Donc ça fait très très longtemps que je fais du contenu sur internet. Mmh. Et le streaming il est juste venu naturellement parce que je trouvais que c'était très difficile YouTube, que ce soit le côté lucratif, parce que c'est très compliqué de gagner de l'argent par YouTube.
Ouais.
Ou même je trouve ça très frustrant de travailler énormément sur une vidéo et des fois qu'elle soit pas aussi bien reçue qu'on aimerait, etc. Et en fait Twitch ça me permet de faire vraiment ce que je veux au moment où je veux. Et surtout d'avoir la réaction des gens directement. Et même les jours où j'ai moins de viewers, ça me frustre pas du tout. Et parce que en fait, les gens parlent quand même. Donc je m'en fiche d'avoir 30 ou 300 personnes qui me regardent. J'ai un contact direct et je trouve ça génial, en fait, de pouvoir directement avoir les réactions à ce que je fais, en fait.
Sur YouTube, je suis désolé, je te connais que depuis Twitch, mais sur YouTube, c'était aussi du jeu vidéo ou c'était
alors,
d'autres sujets?
Pas du tout.
Pas du tout.
J'ai commencé par de la musique, parce que j'étais musicienne à l'époque. J'essayais d'en faire ma profession, pardon. Et après, en 2017, j'ai lancé une chaîne parce que entre-temps, je suis devenue psychologue. Et j'ai lancé une chaîne de vulgarisation de théorie psychosociale.
Ok. Et le jeu vidéo, comment c'est arrivé?
Bah ça, j'ai toujours joué aux jeux vidéo, j'en ai toujours parlé sur Internet, sur mes autres réseaux, etc. Et c'est un peu ce qui se faisait sur Twitch. Et du coup, en fait, moi, sur Twitch, j'ai... 3 jours par semaine, je joue aux jeux vidéo et les 2 autres jours, je parle de politique.
D'accord. Nathalie, comment t'as débarqué là-dedans?
Moi, les jeux vidéo, ça a toujours fait partie de ma vie. C'était tellement sûr et certain que j'ai fait 5 ans d'études dans le jeu vidéo à la base pour devenir 3D artiste. Et en fait, malheureusement, l'école du jeu vidéo a le même problème que l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'elle pratique le crunch à outrance et qu'elle ne respecte pas trop les travailleurs, ni la santé physique ou mentale de ses élèves / employés. Du coup, j'ai fini en burn-out très violent à la fin de mes études parce que j'avais chopé la mononucléose et mon directeur d'école m'a dit « MDR, bois du Red Bull ». Donc voilà, j'ai fini l'année dans un état absolument désastreux. Et j'étais en mode, bah en fait, là, si je rentre dans l'industrie du jeu vidéo, vu l'état dans lequel je suis, je vais mourir, littéralement. Ouais. Il faut vraiment que je fasse autre chose. En fait, à ce moment-là, c'était la sortie de Skyrim Unsaid. Et donc, voilà, c'était la sortie en mode, c'est Skyrim, mais avec des meilleures textures. Bon, au final, c'était la même chose. Mais sur le coup, je me suis dit, bah tiens, ça faisait un moment que j'avais envie de faire du stream. J'en faisais un petit peu à la base pour l'équipe Twitch de Mademoiselle à l'époque. C'est comme ça que je m'étais lancée D'accord. sur le Twitch. J'avais commencé à faire du YouTube aussi avec un autre collectif, avec deux autres meufs qui avaient, pareil que moi, envie de faire une petite chaîne YouTube où on faisait aussi de la vulga et du jeu vidéo. Ça s'appelait Sa Cartouche, avec Mew et Carrie. Et du coup, vu que j'avais déjà eu cette expérience-là de YouTube, moi, j'avais toujours eu très, 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 très peur de me lancer sur YouTube et ou Twitch toute seule parce que j'ai vu le Gamergate.
Ouais.
Et ça m'a vraiment traumatisée. Je me suis dit, je veux pas y aller, j'ai trop peur, je vais me faire harceler jusqu'à la mort. Mais du coup, en faisant Sa Cartouche avec deux autres meufs et en me rendant compte que bah, en fait, ça allait, en faisant du Twitch chez Mademoiselle et en me rendant compte que ça allait, je me suis dit, bah allez, je vais essayer, je vais en faire un peu. Et donc, j'ai commencé à streamer comme une folle sur Skyrim. Et du coup, j'ai eu un truc qui normalement ne se fait pas du tout sur ce genre de choses. J'ai fait 100 viewers dès mon premier live. J'avais 100 viewers quotidiens. C'est énormissime. Pour une personne qui vient d'absolument nulle part, qui a pas de réseau, juste comme ça commencer à 100 personnes quotidiennement. Et du coup, au début, j'étais vraiment en mode, j'étais un peu dans le déni, en mode non, mais je fais juste ça un mois ou deux, le temps d'aller mieux, puis après je vais me chercher un job dans l'industrie du jeu vidéo. Et en fait, j'ai découvert un truc assez incroyable, c'est qu'en fait, quand on n'est pas dans une situation de stress et de précarité physique et mentale, si ça veut dire quoi que ce soit pour les gens, permanente, et on ne pleure plus continuellement tous les jours. Et en fait, au bout de un mois sans pleurer tous les soirs, alors que c'était devenu mon quotidien depuis 2 ans, je me suis rendu compte que c'était vachement bien en fait de juste jouer toute la journée, et en plus d'avoir plein de gens qui me disent que je faisais ça bien et que c'était cool. Et du coup, bah en fait, j'ai été dans le déni pendant 6 mois, 1 an, et après je me suis dit non, mais en fait je veux être streameuse, ça sert à rien que j'essaye de faire autre chose. Genre, ça me passionne, je continuais, les gens étaient là, et du coup, je suis vraiment restée dans le stream, et maintenant, c'est ma profession depuis maintenant 6 ans, et 2016.
Et quand
ans.
Même.
Voilà.
Vu que c'est aussi le sujet, et puis, alors, je sais, parce que j'ai déjà j'ai discuté du sujet à plusieurs reprises, je sais qu'il y a un aspect un peu fatigant. Tu parlais avant que Jul arrive, tu avais évoqué la situation d'Ultia qui se faisait harceler régulièrement. T'as évoqué aussi le thread de Magla qui a, tu l'as dit toi-même, qui a libéré la parole de streameuse. Et en même temps, il y a un aspect Sisyphe, entre guillemets. Enfin, il y a un aspect ultra répétitif. On a l'impression que tous les ans, il y a la polémique qui libère la parole des streameuses, qu'on écoute pendant une semaine, et on va interviewer des streameuses à ce sujet du sexisme sur les plateformes de streaming pendant une semaine, et puis après on oublie un petit peu, et puis on redonne la parole à ces streameuses un an plus tard parce qu'il y a une nouvelle affaire, et on repose les mêmes questions encore aux mêmes personnes qui répondent les mêmes choses, et tout le monde est horrifié parce que a oublié ce qui s'était passé un an plus tôt. Je caricature, mais pas tant que ça.
Non, t'as résumé l'histoire de ma vie depuis 3 ans. C'est ça.
Mais comment, justement, vu que vous, ça fait plusieurs années que vous faites ça et que j'ai pas envie de reposer la question encore une énième fois, mais comment est-ce qu'on dure? Comment est-ce qu'on tient dans la durée avec ces... Parce que vous, c'est pas tous les ans que vous êtes pas confronté à ça une fois par an. Vous, c'est presque 365 jours par an. Comment est-ce qu'on tient dans la durée, et comment est-ce qu'on se préserve? Ou pas, si on peut se préserver d'ailleurs.
C'est une bonne question. Si vous avez la réponse, elle m'intéresse, moi.
Ouais.
Je pense qu'il faut... Enfin, moi, après, vu que, comme je disais, ça fait très très longtemps que je suis sur Internet, et je crois que le tout premier commentaire YouTube que j'ai eu, c'était quelque chose de méchant. C'était, en plus, ça m'avait pas touché du tout, parce que c'était un truc genre, ça se voit que tu t'es fait refaire le nez. Et je me suis pas fait refaire le nez, donc j'étais vraiment, d'accord. je prends ça comme un compliment, peut-être. Et bref, mais en fait, je trouve que, je sais pas toi, Nat, mais moi, j'ai vraiment, en fait, ça m'atteint pas, ce genre de commentaires. La plupart des commentaires m'atteignent pas. Ce qui m'atteint, c'est vraiment quand c'est des menaces assez concrètes, et que, enfin, comme ce qui m'est arrivé, forcément. Et après, sur Twitch, en fait, vu qu'on a les modérateurs, enfin, je sais que moi, la plupart du temps, mes modérateurs, ils sont assez rapides, ça dégage assez vite, ou alors c'est moi qui bloque la personne, et enfin, c'est un peu plus simple.
Nathalie ?
Oui, non, moi non plus, maintenant, les commentaires m'ont jamais rien fait, effectivement, les commentaires méchants, pour ce qui est de voir les hommes être choqués tous les ans en mode « Oh là là, les femmes, je savais pas que vous preniez une telle violence » et voir tous les ans la même chose se répéter. Ça, ouais, ça me pèse un peu plus. Au début, c'était un peu du désespoir et maintenant, ça devient un peu plus de la colère parce qu'au bout d'un moment, il y a un peu du foutage de gueule à par endroit. Mais globalement...
Globalement, la passivité des gens en règle générale et surtout des hommes du milieu, je trouve que c'est pire à subir que en fait le harcèlement.
C'est ça, parce que d'un côté, tu vois, t'as des hommes qui lancent ouvertement des vagues de harcèlement et à côté, t'as d'autres hommes qui sont en mode on dit rien, on a rien vu, on continue à les inviter et ça c'est probablement le truc qui me touche le plus et qui m'énerve le plus.
Je pense qu'on est plus souvent blacklisté nous à ouvrir ouvertement notre gueule que ces mecs-là qui font des vagues de harcèlement.
C'est ça. Ça, c'est clairement les pires aspects de ce milieu qui est très très hypocrite là-dessus, en mode ouais, on est grave derrière vous les meufs, mais en vrai, si vous ouvrez trop votre gueule, dégagez parce qu'on préfère rester potes avec les gens qui font plus de vues parce qu'ils lui rapportent plus d'argent. Donc clairement il y a ça qui est assez dur à gérer, mais moi quand même, si effectivement tous les ans il y a une nouvelle polémique qui arrive et c'est toujours les mêmes discours, moi j'ai quand même pu voir une grosse évolution des mentalités concernant les femmes elles-mêmes et les femmes entre elles, en fait, si tu veux. J'ai vu de plus en plus de meufs commencer à s'intéresser au féminisme. J'ai vu des streameuses qui, à une époque, étaient les pires pick-me ou les pires ennemis, entre guillemets, du féminisme, qui aujourd'hui sont à fond dedans, tu vois. Et je te parle d'un truc, ça a évolué en 6, 5, 4 ans, tu vois. Je vois maintenant des streameuses qui, à une époque, il y a 10 ans, étaient ennemies mortelles parce que c'était les deux seules streameuses de la web TV et donc elles étaient en concurrence et elles étaient horribles l'une avec l'autre. Je les ai vues s'expliquer publiquement, finir par régler leur compte, etc. Et en fait, moi, j'ai pu voir se développer une sororité qui est assez incroyable concernant les femmes et le milieu du streaming. Et même des streameuses, en fait, que je pensais pas du tout safe, pas du tout avec qui j'aurais été en sécurité parce que je les avais jamais vues prendre la parole publiquement sur des trucs, je me suis rendu compte qu'en privé, c'était les meufs les plus déterres et les plus adorables du monde, tu vois. Et tous ces trucs-là, c'était impossible à voir il y a 6 ans. Vraiment impossible à voir. Parce que ça existait pas, en fait, tout simplement. Donc, si effectivement, du côté des hommes, il y a encore un énorme travail à faire parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux encore à dire « Oh là là, la violence des femmes, je savais pas. » Puis ils font genre d'être choqués 5 minutes et puis 2 semaines plus tard, ils refont n'importe quoi. Au niveau des meufs, la prise de mentalité, elle a été réelle et il y a eu des changements qui ont été très concrets et très beaux. Et perso, c'est la seule raison qui fait que je continue... désespérément à me battre, c'est parce que j'ai vu l'évolution chez ces meufs-là et elles méritent de ouf qu'on continue à se battre avec et pour elles.
Vous avez aussi un point commun, toutes les deux, et c'est pour ça aussi que je disais qu'on n'était pas forcément surpris que vous soyez à l'initiative d'un événement comme Furax. Un événement qui, tu l'as dit, mais c'est écrit noir sur blanc sur le site, c'est un événement caritatif qui assume une position politique sur Twitch. Un événement où les invités sont alignés avec cette position et viennent en tant qu'actrices ou alliés de ces combats. Et c'est là où j'ai pas trouvé étonnant, c'est que vous êtes toutes les deux des streameuses qui assumaient constamment des positions politiques, des positions féministes, dans une certaine... Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour moi, c'est un mot très positif, mais dans une certaine radicalité, c'est-à-dire vous êtes capable d'ouvrir votre gueule, que ce soit sur Twitter ou sur Twitch, sans prendre les pincettes habituelles, entre guillemets. Est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que vous voyez aussi les choses évoluer vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la manière dont vos prises de parole sont reçues et ce genre de choses? Ce que tu disais, toi, Nathalie, il y avait un côté un peu, je n'irais pas jusqu'à dire optimiste, mais une amélioration de la situation. Est-ce que vis-à-vis de vos prises de parole et de vos prises de position, la situation évolue aussi? Parce que j'ai l'impression, quand on parle, je suis désolé, je fais encore trop long, mais j'avais l'impression que voilà, quand on parlait de ces streamers masculins qui prenaient la parole qui prenaient la parole une fois par an quand c'était vraiment trop horrible et quand il y avait une polémique, ils peuvent, j'ai l'impression que eux ne comprennent pas vos prises de position. C'est-à-dire, ils se sentent pas concernés par le problème 363 autres jours de l'année.
Je pense pas que ce soit qu'ils comprennent pas nos positions ou qui. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'on subit. Je pense juste qu'ils doivent se le minimiser dans leur tête. Ils se disent ouais. Les femmes elles se font harceler régulièrement, mais déjà c'est comme ça. Et en plus ça doit pas être. Enfin, ils s'imaginent que c'est pas très grave en fait. Alors que même si c'était juste des petits trucs pas très graves, vu que c'est constamment, ça reste lourd en fait. Et surtout en fait, enfin je trouve que le problème c'est vraiment que même ces jours-là où oui, comme tu dis, genre les deux jours par an où ils s'insurgent, bah à part dire oh là là, je savais pas, c'est fou, ils font quoi? Ils font vraiment littéralement rien. Et nous à côté, vu que bah comme tu dis, on ouvre notre gueule tout le temps et on n'est pas enfin même si on a des façons de, je trouve en tout cas, de s'exprimer, Nathalie et moi, qui sont très différentes, même si au final on dit les mêmes choses, mais on a des façons différentes de le dire,
bien sûr.
Et je trouve qu'on passe souvent pour les féministes énervées de service en fait. Ce qui fait qu'on est un peu estampillés comme ça, ce qui fait qu'on nous interview ou on nous contacte que pour ça. Là, avec l'événement Furax, évidemment, ça va pas s'améliorer. Mais on fait partie encore des femmes que ça ne dérange pas en fait d'être interviewées là-dessus et qui militent là-dessus. Mais je sais que ça impacte un peu d'autres streameuses qui, comme Magla ou comme Ultia, en parlent de manière plus ponctuelle et qui du coup se font quand même interviewer que sur ces sujets-là, alors que elles, pour le coup, elles en parlent deux fois par an, quoi.
Bah quand même, pour parler de vos chaînes respectives, parce que j'ai aussi envie, parce que vous avez organisé Furax, mais vous avez une activité sur Twitch. Toi, tu as parlé d'une part, Jules, tout à l'heure, de ce truc de deux jours, trois jours de jeux vidéo et deux jours de revue de presse, débat et ce genre de choses. Quels sont les jeux auxquels tu joues? C'est quoi, qu'est-ce que tu proposes généralement sur ta chaîne pour les gens qui ne connaîtraient pas ce que tu fais?
Moi, je suis vraiment une très, très grosse fan des jeux indés, ce qui englobe beaucoup de types de jeux en vrai, mais j'aime beaucoup les petits jeux qui durent quelques heures en fait, et pas les triple A où tu te perds. Enfin, je les aime bien aussi, mais je trouve que à streamer c'est beaucoup plus sympa pour moi en tout cas, les petits jeux indés, et du rétro gaming aussi, parce que j'avais un Amiga dans les années 90.
Ça va parler à beaucoup d'auditeurs.
Oui.
Dans son jeu.
Et je jouais beaucoup à Monkey Island notamment, et point and click en règle générale, et j'adore refaire des point and click. Donc si il y a des studio indé qui sortent des point and click, moi c'est vraiment le top pour moi.
Et c'est quoi ton dernier le dernier jeu sur lequel t'as flashé?
Vraiment flashé ou juste dernier que?
As you wish, comme tu veux.
C'est une bonne question. En ce moment, je suis vraiment très très accro à un jeu. Je l'ai streamé une ou deux fois, mais j'y joue plus toute seule pour moi. C'est House Flipper, et vraiment c'est parce que c'est vraiment un jeu où je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un petit jeu de simulation, on va dire, de construction, où tu dois genre retaper des maisons et tout. Et tu sais, tu poses.
Ah oui, 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 oui.
Tu poses vraiment ton cerveau à côté. et tu fais ça, je peux faire ça en regardant une série ou un truc comme ça, et vraiment, c'est parfait pour moi.
C'est comme comment ça s'appelle, le Hyperwash Simulator, le.
Oui, Powerwash. Ouais.
Powerwash, ouais. Ouais, pardon.
Bon, du coup, ça rentre pas dans le truc indé que je disais, enfin, même si c'est toujours un petit peu indé, les jeux de simulation comme ça, mais c'est mon jeu auquel je suis accro en ce moment.
D'accord. Et toi, Nathalie, qu'est-ce qu'il y a sur ta chaîne?
Bah là, en ce moment, c'est le Steam Neo Fest, donc il y a plein de démos, donc je pense que je vais y passer la semaine. Sinon, en général, moi, vraiment, c'est très, très varié. Je peux jouer un peu à tout, sauf les FPS qui me parlent un peu moins, les jeux de foot aussi un peu moins. Mais tout ce qui est RPG avec une grosse histoire et tout, et qui n'ont accessoirement pas été fait avec des licences de grosses terf, ça, il n'y a pas de souci, j'y joue avec un immense plaisir.
Je vois pas de quoi tu parles.
Avec des Pokémon, avec ce genre de choses, ça va un peu dans tous les sens. Tu dis dans ta bio Twitter que tu es aussi casteuse, donc tu commentes Tu commandes des trucs ?
Ah, je l'étais. C'est plus d'actualité. J'ai été casteuse, donc ça, c'est quand même vrai. Effectivement, je castais Legend of Runeterra, le jeu de cartes de League of Legends. Je castais les compétitions, effectivement, sur ce jeu-là, mais ce n'est plus d'actualité.
D'accord. Pour terminer sur Furax, il y a toujours un débat sur Twitch et sur les violences sexistes et sexuelles et puis sur les agressions, le harcèlement et ce genre de choses, qui est le rôle de Twitch même. Ça revient. Je sais que toi, tu as fait des threads dessus, Nathalie.
Ouais.
Mais il y a ces deux trucs. On a parlé tout à l'heure de ces communautés qui finissent par être, à force de ne pas être éduquées, qui finissent par être vraiment toxiques. Et il y a l'outil, la plateforme elle-même, à qui on a longtemps reproché son inaction totale vis-à-vis de ce phénomène. Est-ce que ça évolue ? Est-ce que j'ai pas l'impression que ça bouge des masses, mis à part aux extrémités, mais comment est-ce que tu vois le rôle de Twitch, vous voyez le rôle de Twitch là-dedans ?
Maximal.
Ouais. enfin, c'est plus leur leur rôle, ils font rien en fait. Ils font...
Oui, voilà. Non, mais leur responsabilité,
voilà,
je veux dire,
est
maximale.
Maximale. Ouais.
Parce que oui, si tu veux, je peux développer de ouf là-dessus. Oui. J'adore cracher sur Twitch, c'est vraiment ma passion. Ok, alors, en 50 minutes, en très très gros, à mes yeux, une énorme partie de la violence que prennent les femmes encore aujourd'hui sur Twitch est complètement due à leur faute. Parce qu'en fait, déjà, sur le site Game Industry, il y a quelques années, on a eu une gigantesque enquête au sein de Twitch elle-même, donc des locaux US Twitch, dans laquelle on apprend que l'ambiance là-bas était tellement sexiste, misogyne et raciste que quand des streameuses allaient les voir pour leur dire « au secours, je me faisais harceler », les développeurs de Twitch eux-mêmes répondaient en disant « oh MDR, regarde, il y a la paire de seins ambulants qui se plaint ». Donc la mentalité là-bas étant déjà tellement sexiste et dégueulasse, il y a eu des cas d'agression au sein de Twitch qui n'ont pas du tout été gérés, bien sûr. Donc c'était vraiment, ils nous ont fait une Ubisoft, tout simplement. Donc c'était l'ambiance là-bas était déjà horrible et du coup, bizarrement, ça fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'outils qui ont été faits pour gérer le harcèlement et aider les femmes à s'en sortir. C'est-à-dire que les femmes n'étaient pas forcément mises en avant de ouf, comme par hasard, elles n'étaient pas sur la page les mises en avant de Twitch, quoi. Ouais. Sur les front page, voilà. Elles n'y étaient pas très souvent sur les front page, les meufs.
C'est important pour se faire connaître.
Ah oui, quand tu as des contacts chez Twitch et que tu arrives à te faire mettre sur la front page, tu es très heureux. Tu es très, très heureux parce que tu brasses un chiffre qui peut aller à 2000 viewers facilement, en fait.
Ouais.
Ça a vraiment déclenché des prophéties autoréalisatrices très tôt, en mode, il n'y a pas de femmes sur Twitch, et de toute façon, les femmes, elles ne peuvent pas réussir. Du coup, le peu de femmes qu'il y avait, elles se prenaient tous les a priori de plein de gens qui étaient en mode, non, mais c'est une femme, c'est forcément moins intéressant, donc je ne vais même pas rester. Et en plus, du coup, elles n'étaient jamais mises en avant, donc forcément, elles n'étaient pas connues. Et tout le monde partait du principe que si elle n'était pas connue, c'est parce que c'était une meuf, alors que, justement, elle n'avait jamais été mise en avant à cause de ça. Bref, ça a fait vraiment des cercles vicieux de ouf que Twitch a absolument pas cherché à corriger à l'époque. Je te dis, à l'époque, ça date de 2014, tu vois, un peu avant, un peu après. Donc c'est vieux, mais pas tant que ça non plus. Et donc, quand on sait déjà que de base, chez les développeurs même de Twitch, il y a eu des propos comme ça, on comprend pourquoi les outils ont mis énormément de temps à être développés. Le problème, c'est que vu que les outils ont mis énormément de temps à être développés, la communauté, elle a continué à se développer dans le plus grand des calmes et sans le moindre frein. Twitch, en fait, ils ont une politique qui est, on laisse absolument tout le monde rentrer. On est en mode porte ouverte parce que plus il y a de monde qui peut aller sur le site, plus il y a de l'argent à se faire. Se créer un compte sur Twitch, ça prend littéralement 5 secondes. Alors, je sais pas si ça a changé, mais il me semble pas. Tu peux effectivement valider ton numéro de téléphone ou ton adresse mail, mais en soi, des trucs pour te créer des adresses mail, ça se fait en 5 secondes. Ouais. Tu peux avoir un compte Twitch en 5 secondes. Et ça, pour le cyberharcèlement, c'est absolument génial. Pour la sécurité des meufs, ça l'est beaucoup moins. Et le problème, en fait, c'est que Twitch a jamais trop eu la volonté de fermer les portes. Pour eux, il faut à tout prix que le site reste ultra accessible, que n'importe qui puisse créer un compte ultra rapidement et si possible que n'importe qui puisse dépenser son argent super rapidement. Et du coup, en fait, le fonctionnement de base de Twitch n'est pas compatible avec la sécurité des femmes. Parce que là, en fait, il y a clairement un choix qui a été fait entre la sécurité des femmes, c'est-à-dire limiter la possibilité de les faire se cyberharceler, limiter la possibilité de refaire facilement des comptes, etc. Et d'un autre côté, l'argent. Juste l'argent qu'il y avait à se faire, qui était monumental. Sachant que, bah, comme les femmes n'ont jamais très très bien été mises en avant sur Twitch, elles percent moins. Et du coup, elle rapporte beaucoup moins d'argent. Donc forcément, du côté de Twitch, ils se sont probablement dit bah, « on va pas dépenser des sommes monumentales pour les protéger alors qu'elles nous rapportent pas assez ». Parce que ce qui rapporte de la thune à Twitch, on l'a vu hein, avec le leak des données, ça aussi c'était super, que bah, c'était surtout des hommes hein, dans les plus gros streamers chez eux. Donc pourquoi se casser le nez à inventer des outils, à dépenser de l'argent pour faire des recherches sociologiques, etc., pour essayer de corriger les choses? Parce que, pareil, tu vois, dans les choses qu'ils pourraient faire, dans le fonctionnement même de Twitch, encore une fois, quand tu bannes quelqu'un, il est banni de ta chaîne, pas de Twitch. Ouais. Et pourtant, tu vois, on pourrait se dire, si jamais un mec va sur la chaîne d'une meuf pour lui dire « je te souhaite de te faire violer, j'aimerais te décapiter » et tout un tas d'autres choses horribles, dans quel univers on se dit que ce mec-là devrait avoir le droit de continuer à aller sur plein d'autres chaînes Twitch? Pourquoi il n'est pas banni de Twitch de manière générale? Bah en fait, tu vois, ça, c'est le fonctionnement même de Twitch. Ça paraît évident à tout le monde que, ouais, quand on est banni que sur une chaîne. Mais pourtant, tu vois, moi, le message que je vois derrière ça, c'est que Twitch, ils disent que si jamais il y a un mec qui veut venir m'insulter, me menacer de mort et me menacer de viol, mais derrière, il lâche son sub à MrMV, bah, il n'y a pas de souci, il peut continuer à aller voir les streams de MrMV, tu vois. Parce que, bah, quand même, c'est son streamer préféré, tu vois, on va quand même pas le priver de ça. Alors que ça serait une vraie punition, tu vois.
En plus, ça doit pas être très compliqué de leur remonter, tu fais une capture d'écran, je sais pas quoi, tu leur envoies, tu signales, etc. Et surtout, enfin, moi, je pense que aussi, hein, le nombre de bans, parce que tu vois, si un mec qui fait ça sur plusieurs comptes de meufs, par exemple, il y a plein de mecs qui sont bans par des groupes entiers de streameuses. Et tu te dis, si un mec, il est ban de 12 chaînes, pourquoi il est encore là, en fait? Pourquoi ouais. Twitch a ouais. pas un certain nombre de bans maximum que tu peux atteindre avant de dégager, quoi?
C'est ça, en fait, au niveau même du fonctionnement de Twitch, tu vois, il y a des trucs qui vont vraiment pas, même dans leur modération, il y a des tas de questions. En fait, on se dit, mais pourquoi ils font ça? C'est pas du tout sécurisé. Bah, la réponse, elle est très simple. Parce que la thune. Parce qu'on va surtout pas empêcher Michel, qui menace les meufs de mort, d'aller lâcher son sub chez Zerator ou MV derrière, tu vois. Et en fait, tant qu'il y aura cette mentalité-là chez Twitch, les femmes seront jamais vraiment en sécurité. Parce qu'en fait, là, ça fait 2-3 ans, du coup, qu'ils ont compris que ça leur faisait perdre un peu d'argent, ou en tout cas que ça leur faisait perdre l'estime publique de laisser les femmes et les LGBT se faire cyberharceler chez eux. Donc, ils arrivent en mode « Ouais, vous inquiétez pas, on développe des outils. » Et en fait, tous les outils qu'ils nous donnent pour l'instant sont juste des moyens de contourner le problème, mais jamais de l'attaquer de front. Par exemple, ils sont arrivés en mode « Regardez, maintenant, vous pouvez choisir les personnes qui vont parler sur vos chats. Vous pouvez interdire aux gens qui n'ont pas validé leur numéro de téléphone, qui n'ont pas validé ci, qui n'ont pas validé ça. » Et en fait, au lieu d'apprendre leurs responsabilités, ils déplacent la responsabilité sur les streamers individuellement. C'est à nous de faire le tri, c'est à nous de faire la modération, c'est à nous de limiter l'entrée. Le problème, c'est que nous, en fait, si on commence à interdire aux gens qui nous follow pas, par exemple, de venir de pouvoir parler dans notre chat, ou qui n'ont pas validé leur numéro de téléphone, ou qui n'ont pas ci ou qui n'ont pas ça, bah en fait, juste, on se prive de viewers. C'est des gens qui vont pas rester, qui vont partir. Et en se privant de viewers, le fonctionnement de Twitch fait que moins tu as de viewers, moins tu es mis en avant, moins tu as d'argent. Donc en fait, on nous demande, si vous voulez être en sécurité, bah, y a pas de souci, on vous donne des outils qui vous permettent d'être moins accessibles et donc d'avoir moins de revenus. C'est prodigieux, on en est là, et les mecs sont en mode, c'est bon, on vous a donné des outils, vous débrouillez, on fait un maximum pour vous. C'est pas vrai, c'est complètement lunaire. Et en fait, pour te dire, c'est tellement lunaire, c'est tellement à côté de la plaque, qu'on en est au point où c'est des individus qui doivent développer des bots pour aider les femmes à se protéger de la misogynie, tu vois. Donc là, on a pu voir des trucs genre Place de la Paix qui sont arrivés, et pareil, tu vois, bah, on a fait une interview avec Jules hier, je crois, où on nous demandait aussi, bah alors, qu'est-ce que vous pensez de Place de la Paix? Et moi, du coup, je dis, bah en fait, pour moi, Place de la Paix, c'est un aveu d'échec. C'est juste un aveu de la part de Twitch de dire, on a absolument merdé dans la modération, on ne sait absolument pas quoi faire, et du coup, vous allez devoir vous démerder vous-même. Et le gros problème de ce genre de truc, le gros problème des initiatives individuelles, c'est que les mecs derrière Place de la Paix, par exemple, je le cite lui, mais il y en a d'autres, hein, mais en fait, les mecs derrière ce genre de truc, bah, c'est des bénévoles qui font du travail gratuit, qui ne sont absolument pas formés, qui n'ont absolument aucune obligation légale de répondre à des critères anti-discrimination, anti-machin. Du coup, c'est des mecs qui peuvent avoir une modération complètement opaque. C'est déjà ce que fait Twitch, hein. Mais Twitch, tu peux te dire que si jamais au bout d'un moment on arrive à prouver qu'il y a du favoritisme, tu peux avoir un recours. Là, oui, sur un truc fait par des bénévoles dans du travail gratuit sur un bot, tu peux pas faire des recours légaux si jamais il y a du giga favoritisme entre potes, tu vois. Et du coup, donc, ce seraient des mecs qui feraient office de modérateurs, dont on n'a pas la moindre idée de s'ils sont formés au féminisme ou des trucs comme ça, qui auraient la responsabilité de ban des gens sur plein de chaînes différentes. Enfin, c'est une idée absolument dramatique, je trouve, et ça pose plein de questions qui se poseraient pas si c'était Twitch qui faisait un truc officiel, parce que tu vois, Twitch, il y aurait obligation d'avoir une formation pour les employés, ils seraient payés, donc il y aurait des attentes en termes de qualité de travail qui seraient un peu supérieures, etc. Donc bref, tu vois, genre, pour moi, la responsabilité de Twitch, elle est énorme. Pour l'instant, ouais, ça reste une méga entreprise super capitalisme qui garde la tête dans le sable et qui ne fait rien. Et le peu qu'ils font n'est vraiment pas suffisant du tout. Et personnellement, j'ai vraiment perdu espoir de voir Twitch réagir ou faire quoi que ce soit. Et ça s'entend, tu vois, quand j'en parle, je suis très en colère, parce que je rappelle que je n'ai pas mon mot à dire, Twitch prend 50% de mes revenus. Ils sont même pas c'est foutus ça. De me protéger, mais ils prennent 50% de mes revenus. 50%, c'est énorme, 50%.
50%, et ils peuvent unilatéralement décider oui. de baisser le prix des abonnements.
Exactement, c'est ce qu'ils ont déjà fait.
Choses.
C'est ça, ils peuvent couper ma chaîne du jour au lendemain de manière complètement opaque. J'aurais jamais le droit d'avoir la moindre demande de pourquoi vous avez vraiment coupé ma chaîne, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ils pourront me dire tout ce qu'ils veulent, ça pourra rester en interne et on n'aura que nos yeux pour pleurer.
Waouh.
Pardon, Non mais sinon la vie de streamer c'est bien, hein. J'aime beaucoup.
Ouais. J'ai juste une question, après c'est une réflexion personnelle, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, ou pas, hein, j'en sais rien, mais on a parlé de ces communautés toxiques aussi qui ont une énorme responsabilité dans la toxicité générale de Twitch. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi des gens qui les fédèrent, ces communautés?
Mais bien sûr, c'est-à-dire si Twitch faisait...
Mais
si Twitch faisait sa modération, si Twitch appliquait les règles qu'ils prétendent ouais. avoir, ils ne seraient pas là, ces mecs-là. Donc encore une fois, tu vois, la responsabilité, elle revient sur Twitch, parce qu'effectivement, Twitch, ils ont une charte en mode interdiction d'être discriminant, interdiction de machin, oui. et en fait, factuellement, quand tu leur montres des streamers qui font du harcèlement, les mecs, ils sont pas cons, ils disent pas haut et fort, allez harceler telle meuf, elle me saoule. Non, non, ils vont juste dire, c'est ce qui se passe avec Ultia, par exemple, ils vont juste se mettre à parler de cette meuf en mal, très souvent, tu vois, et c'est pas illégal de oui. parler de quelqu'un. Sauf que du coup, eux, ils attisent une haine monumentale et ils savent qu'ils ont déjà des communautés détestables. Mais tu vois, en fait, c'est un problème global et je suis d'accord avec toi. Il y a les streamers qui jouent un rôle monumental là-dedans, parce qu'il y a des streamers qui ne modèrent absolument pas leur chat. Il y a des streamers qui eux-mêmes ont des blagues sexistes et des blagues racistes et les assument à 100%. Et bien évidemment, eux, ils sont responsables. Mais encore une fois, ces streamers-là, bah, en fait, à la seconde où ils ont dit des trucs problématiques, ils devraient déjà être dégagés par Twitch. Et du coup, si Twitch avait appliqué ces règles et les avait dégagés, bah, leur communauté, elles auraient fini par se dire, ah ouais, donc lui, quand il se comporte comme ça, il se fait ban. Bon, bah, je vais peut-être me calmer. Et tu vois, c'est le même problème. Les communautés extrêmement toxiques dont tu parles, si à force de se faire ban chez toutes les meufs qu'ils avaient harcelées, bah, ils se faisaient dégager et ils pouvaient même pas aller sur le stream de leur streamer favori qui est lui-même très problématique, bah, ça les calmerait aussi, tu vois. Donc au final, même si effectivement il y a une responsabilité individuelle de certains streamers qui sont juste détestables et qui n'ont pas leur place sur Twitch, bah, en fait, la question reste toujours la même. Twitch garde ces gens-là. Parce qu'en fait, en plus, tu vois, le système de modération sur Twitch, il n'a aucun sens. Le seul moyen pour qu'un streamer se fasse bannir ou punir, entre guillemets, pour son mauvais comportement, c'est qu'il faut qu'il y ait des viewers qui le reportent. Le problème, c'est que les viewers du streamer, techniquement, s'ils le suivent, c'est qu'ils l'apprécient déjà. Ils vont pas s'amuser à report quelqu'un qu'ils aiment bien, tu vois. Donc il faudrait que toi, par hasard, tu passes sur la chaîne de quelqu'un que tu connais pas trop ou que t'apprécies pas trop pour regarder ce qu'il fait, pour aller le report, tu vois. Genre, en gros, Twitch nous dit... En fait, même le simple travail de modération, c'est Twitch qui l'a rendu, encore une fois, en responsabilité individuelle. C'est à nous d'aller faire la police sur les streams d'autres gens pour aller regarder s'il se passe pas des trucs glauques, parce que les streamers, ils sont pas cons. Par exemple, Altaïr, tu vois, qui a eu un thread sur lui, etc. Lui, par exemple, il mettait ses VOD en sub only. Donc, les gens qui sont sub chez lui, qui lui donnent 5€ par mois, tu te doutes bien que c'est des gens qu'il aime. Donc, comme ça, il interdisait les clips. Donc en fait, soit tu le prenais sur le fait en train de faire un truc, soit c'était terminé, tu ne pouvais absolument pas le report. Et il y en a plein des streamers qui font ça, des streamers qui savent très bien qu'ils font des trucs problématiques. Dès qu'ils ont fini leur stream, ils suppriment la VOD. Et en fait, soit tu les prends sur le fait, soit tu ne les surprends pas du tout. Et en fait, la modération même de Twitch, en fait, elle est problématique parce qu'elle demande aux gens de faire le travail de veille et d'attention, alors que leur fonctionnement même fait que quand tu vas chez un streamer très souvent, c'est parce que tu l'aimes bien, donc t'as pas envie de le report s'il a fait quelque chose. En général, tu vas même avoir tendance à être d'accord avec lui.
Et c'est vrai que, du coup, ce que tu disais, c'est que toutes les avancées, tous les discours de Twitch depuis enfin ça va pas, ça fait déjà pas très longtemps que ça fait partie de leur discours, mais ils ont fait des annonces, ils ont fait des discours sur l'inclusivité, le côté safe place et tout ça. C'est vrai que à chaque fois, et je pense que c'est un des critères d'après ce que tu viens de dire, hein, c'est toi qui nous l'as expliqué, c'est est-ce que leur décision peut nuire à leur chiffre d'affaires ou pas, et ouais. En fait ça nuit jamais à leur chiffre d'affaires,
c'est ça.
Du coup, Furax sur Twitch. Du coup, Furax sur Twitch, c'est-à-dire que... Enfin, c'est dans le sens où il y a un côté presque... Est-ce qu'il y a un côté cheval de Troie dans ce que vous faites ?
Non.
Non ?
Non, non. Bah, après, le truc, c'est que nous, on n'a pas, ni Nat ni moi, on n'a pas des communautés assez grandes pour avoir un impact sur Twitch eux-mêmes. Et je pense que même là, l'événement, bien qu'on ait des gens qui ont quand même des communautés assez grandes... je pense que même l'événement en lui-même, avec toutes les vues que ça va générer, ils ont pas non, on n'aura pas non plus assez de pouvoir pour faire quoi que ce soit du côté de Twitch.
Mais de toute façon, même les très gros streamers français n'ont pas de pouvoir pour faire bouger quoi que ce soit chez oui. Twitch, parce qu'en fait, Twitch, c'est les US uniquement qui les intéressent. C'est-à-dire que ouais. Même si Zerator, MV et Gotaga et j'en sais rien, même Popcorn, tu vois, arrivaient et disaient bah il y a ça qui va pas du tout. Twitch va leur dire MDR, je m'en bats les couilles, parce que la seule et unique voix qui compte, c'est celle des Américains. Dans ces termes-là, absolument, mot pour mot. Parce qu'en fait, les seules voix qui comptent, et on a pu ça fait des années qu'on le constate, c'est les US. Et en fait, j'ai pas du tout la volonté de bouger Twitch, parce que ça n'arrivera pas, en fait. On ne peut pas changer Twitch. En fait, nous, individuellement, on peut rien faire. Les seuls qui peuvent faire quelque chose, c'est le gouvernement. Et c'est aussi pour ça que bah moi par exemple Furax, tout ce qu'on va faire en termes de table ronde, d'éducation et tout, je vais les envoyer moi-même au gouvernement du numérique et de l'égalité homme-femme, parce que je pense que c'est super important. En fait, on a vraiment besoin que ce soit eux qui s'intéressent à ce genre de choses et qui mettent des réglementations, tu vois, parce que par exemple des trucs complètement bêtes, hein, mais tu vois, en tant que streamer, quand tu veux devenir partenaire avec Twitch, tu dois signer un contrat. Moi, par exemple, le contrat que j'ai signé, de mémoire, il était en anglais. Et bah, juste ça, par exemple, c'est parfaitement illégal. Voilà. Et tu vois, genre, je vais pas m'en plaindre, je vais pas faire « Ah bah non, du coup, je signe pas le contrat parce que du coup, j'ai plus de job. » Et j'aime beaucoup être streameuse, hein. Je sais que ça, peut-être ça s'entend pas, mais j'aime sincèrement mon métier, ça m'a sauvé la vie, en fait. Et c'est pour ça que je suis aussi véhémente et aussi énervée, c'est parce que j'ai envie que ça change pour le meilleur, parce que pour l'instant, en fait, les conditions de travail pour les streameuses, elles sont... Enfin, les streamers, les streameuses, elles sont pas OK, elles sont pas sécurisées. Mais en fait, le fait est que si le gouvernement pouvait arriver et dire à Twitch, bon bah en fait, si vous voulez rester en France, il va falloir changer quelques trucs, bah là, il y a Twitch qui va peut-être faire bon, ok. Parce que l'air de rien, tu vois, et encore, ils pourraient peut-être dire, bah ça va, si c'est que la France, on s'en fiche. Mais si, par exemple, l'Europe arrive et leur dit, bon, par contre, si vous voulez rester en Europe, il va falloir vous mettre à suivre un peu nos règles en termes de responsabilité, d'inclusivité, de modération, etc. Bah là, je peux te dire que Twitch, ils vont commencer à changer un petit peu, tu vois. Mais c'est le seul et unique scénario où Twitch pourrait commencer à bouger. Pour l'instant, j'y crois absolument pas.
Ou que les streameuses américaines se mettent à bouger de leur côté. Ce que je aussi. Pense, elles font déjà, mais pareil, il faut qu'on les écoute, quoi.
Ouais.
Là, vous avez une line-up qui est présente sur votre site où il y aura ABB Glass qui sera là, il y aura Natou qui va faire une apparition, si j'ai bien compris, il y aura Afro Gameuse, vous en avez parlé, les filles d'Afro Gameuse qui feront des streams séparés et des présentations collectives, il y aura Usul qui sera là aussi, Maudit aussi. Est-ce qu'il y a... Vous savez combien de gens seront là ? Vous avez la liste définitive ou c'est encore en... Je précise juste que nous réalisons cet entretien le 8 février, même s'il sera diffusé à quelques jours de l'événement. C'est pour ça que les choses aussi peuvent bouger dans les jours qui viennent.
On a, bah, comme tu l'as dit, Nat, une quinzaine à peu près de gens qui seront présents à l'événement. Après, on a aussi des gens qui seront à distance. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas te dire exactement le nombre qu'on sera. Et pareil, le line-up, on le dévoile au fur et à mesure. Donc, c'est teasé, quoi. Genre, d'ici, je pense, quand l'épisode sera diffusé, on aura le line-up complet. Mais pour l'instant, on le dévoile petit à petit.
Comment ça se passe depuis l'annonce ? Vous sentez qu'il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui vous rejoignent, il y a, je suppose, des gens qui sont pas contents ?
On n'a pas eu de retour de gens qui sont pas contents, je crois. Le jour où on a fait l'annonce, on a eu les traditionnels et les hommes victimes de violence alors.
Ah non, c'est vrai.
C'est pour ça qu'on a invité quelques hommes pour faire plantes vertes,
oui,
comme
voilà.
Ça, hop.
Non mais enfin, en plus, Ça me fait rire parce que vraiment, celles qui font des choses pour les hommes victimes de violences sexuelles, c'est généralement des féministes. Et c'est pas des hommes. Et puis, surtout, c'est pas parce qu'on parle de violences sexistes et sexuelles, et donc de violences faites aux femmes, qu'on n'est pas aussi impliqué et pas aussi attristé quand ça arrive à un homme, en fait.
Bien sûr.
C'est juste que nous, on a fait un événement sur des choses qui nous concernent, nous. Si demain un streamer qui a été victime de violences sexuelles m'invite à un événement pareil, moi j'y serai, hein, y a pas de problème.
Et donc ça va durer 2 jours, vous avez prévu de dormir ? Ou vous allez cruncher ?
Il va y avoir un peu de crunch et un peu de sommeil, mais je pense que ça va, on va pas dormir beaucoup.
De toute façon, c'est vu que c'est notre événement, c'est même pas là, tu vois, c'est même pas du crunch parce que pour moi le crunch il implique une forme d'obligation, tu vois, même si personne te dit ouais si tu bosses pas tu vas te faire virer, t'as cette impression derrière, tu vois. Mais là nous, en fait, c'est juste, c'est notre événement et je pense que je serais juste trop excitée, j'arriverais pas à dormir et je serais trop à fond. Et tu vois, c'est que une soirée et je me dis je récupérerai la semaine suivante et ça sera trop cool, tu vois. Mais comme je t'ai dit, petit jacuzzi, petite piscine à boules, petit karaoké, petit machin, genre on va avoir plein de choses à faire, on va avoir plein de trucs. J'ai qu'une seule envie là, c'est d'y aller et de faire 5000 trucs, 5000 tables rondes, 5000 concours de bulles dans le jacuzzi, ça va être incroyable.
concours de bulles.
Comment ça va se passer ? Vous savez comment ça va se passer concrètement pour les gens qui voudront faire un don ? Enfin, pour les gens qui n'ont jamais participé à un événement caritatif sur Twitch, et je pense qu'il y en aura beaucoup aussi. Vous allez aussi amener des personnes qui ne sont pas des habitués du Z-Event et autres à vouloir participer. Comment ça va se passer pour celles et ceux qui voudraient faire des dons ? Ça marche comment ?
Ah, ce sera super simple. Il y aura tout simplement un lien vers une cagnotte et on donne de l'argent en ligne. Je crois que en général, c'est carte bleue, PayPal, enfin comme d'habitude.
On est d'accord que Twitch prend pas 50%.
Non. On s'en est bien assuré. T'inquiète. Je me serais arraché les cheveux sinon. Non. Ce sera vraiment pas ça. Ouais.
Juste par curiosité, vous avez, dès l'annonce publique début janvier, vous aviez indiqué que vous recherchiez des sponsors. Est-ce que c'est quelque chose qui a fonctionné ou pas
Au début, oui. Malheureusement, on a eu un sponsor qui a dû partir en cours de route. Et du coup, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que l'événement approche et donc la petite annulation au dernier moment, ça fait toujours plaisir. Les sponsors, c'est surtout nous qui sommes allés les chercher, on va pas se mentir.
Ouais.
C'est nous qui allons dans les MP et tout, mais on a quand même eu des candidatures spontanées de gens qui étaient super intéressés, donc ça a fait super plaisir.
On a des mécènes aussi, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des entreprises mais qui donnent de l'argent pour nous aider.
Ouais, c'est complètement vrai.
Ah, c'est cool. C'est cool. Écoutez, moi j'ai envie de vous souhaiter tout ce qu'il y a de mieux pour ces 2 jours. Je rappelle, 25 et 26 février. Ça commence à quelle heure ? Ça finit à quelle heure ?
Ça commence à 8h du matin, ça finit à 18h le dimanche soir. 8h du matin le samedi, pardon.
D'accord. J'espère que vous allez casser. Il n'y a pas encore de record de Furax à battre parce que c'est la première édition.
Ça, déjà, si on arrive à lancer Furax, sincèrement, c'est une victoire.
Oui,
c'est déjà...
Mais oui, rien
c'est
que
déjà ça.
Ça. Rien que ça, c'est une victoire. Écoutez, soyez présents. Peut-être pas. Moi, je serai pas présent à 8h du matin. Je vais pas vous mentir.
Quoi ?
Mais mais dès que je peux, uh-huh. Promis. soyez présentes et présents samedi 25 et dimanche 26 février. Ce sera sur la chaîne Twitch de Furax, sur la chaîne Twitch de Nathalie, de Jules et de toutes les participantes et les participants à cet événement caritatif. Il y aura toutes les informations, évidemment. Vous pourrez lire toutes les informations sur le site onestfuraxtoutcollé.fr. Et est-ce que vous avez autre chose à rajouter ?
De pas hésiter à faire des micro-dons, que vraiment, si on n'a pas d'argent, on peut venir mettre 5 euros, c'est pas un problème. Je crois que, je sais pas exactement quel site on aura, mais il y a même des sites où on peut faire des dons de 1 euro, et on est vraiment contents s'il y a des petits dons comme ça.
Voilà, et que si jamais même un petit don, c'est pas possible, parce que ça peut arriver, le simple fait d'être présent sur les chats, de participer aux blagues, de relayer sur ses réseaux, d'en parler à ses amis, à ses parents, à sa grand-mère, et déjà ça, c'est beaucoup, voilà, c'est important.
Oui.
Ça donne de la force.
Voilà.
Et c'est important. Merci à toutes les deux, merci Nathalie, merci Jules.
Merci à toi.
Merci à toi, c'était un plaisir.